EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence. Elle propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et des agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes pour vous partager notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'éducation populaire et nous découvrirons des sujets, des outils, des invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Alors aujourd'hui, on poursuit la discussion qu'on a commencée au mois de mars sur le thème « Animer, pourquoi faire ?». Le mois dernier, avec Juliette, on s'est interrogé ensemble sur cette activité centrale dans l'éducation populaire. On anime des groupes, on anime des discussions, des débats, on anime des formations ou des stages. Mais en fait, c'est quoi animer ? Et à quoi ça sert ?
Alors, la dernière fois, on s'était quitté sur... Où est-ce qu'on a appris à animer ? Et comment c'est difficile d'apprendre l'éducation populaire en théorie et que c'est plutôt par la pratique qu'on apprend en faisant en éducation populaire. Et on n'avait pas tout à fait fini sur la question de la posture, qui est donc un enjeu central en éducation populaire. On adore ce terme et en même temps qui est très difficile à définir. On avait dit que la posture, elle était ajustée au public, qu'il y avait la question de public captif ou pas, que ça changeait pas mal les enjeux de ce qui se passe dans une animation. Et moi, j'avais envie de parler du fait que la posture, c'est aussi important qu'elle soit ajustée au contexte dans lequel on est, donc le contexte de captivité ou pas du public, mais aussi dans l'idée de... on cherche en éducation populaire à ce qu'il y ait le plus d'horizontalité possible. On a parlé du fait que de rendre du pouvoir d'agir, de donner du pouvoir d'agir aux participants et de leur permettre d'être libres de participer ou pas, par exemple, mais aussi de permettre de l'horizontalité, tout en étant conscient et consciente qu'elle n'est pas parfaite. Moi, je pensais, par exemple, au fait qu'en tant qu'animatrice, j'ai plus de pouvoir que les participants. Je sais ce qui va se passer, j'ai choisi d'être là. Parfois, je suis payée pour le fait d'être ici. Je tiens le cadre. Les participants, ils vont avoir tendance à venir vers moi pour s'il y a un problème ou pour des rappels... ou pour des désaccords, et du coup j'ai plus de pouvoir qu'eux. Et du coup, rien que ça, ça fausse déjà l'horizontalité, alors même qu'on va essayer de mettre en place des choses pour qu'elles soient la plus importante possible. On a parlé de la répartition de la parole par ailleurs. Et du coup, pour moi, un truc qui était important dans la posture, c'est d'avoir conscience, moi personnellement, que l'horizontalité n'est pas parfaite et que j'ai ces avantages, on va dire, que j'ai plus de pouvoir que les participants, et si possible même, si j'ai le temps et si j'ai l'espace pour ça, de les nommer en fait. Moi, c'est quelque chose que je fais dans mes stages, mes formations, j'aime beaucoup prendre le temps de dire, j'ai cette position-là dans le groupe, ça va avoir une influence, je vous le dis pour que vous en ayez conscience, et que vous puissiez avoir de l'autonomie et de la liberté vis-à-vis de ça.
Voilà. Carrément, ça participe de se situer, un grand mot... des gens fans de sociologie, se situer d'où je parle et que les gens sachent un peu d'où cette personne qui va les guider pendant 2 heures, 3 jours ou une semaine, d'où elle parle. Donc il y a effectivement nommé un peu les déséquilibres de pouvoir qui sont en place. Est-ce que toi, parfois, tu te situes aussi au niveau de ton identité ?
Ouais, carrément. C'est hyper important pour moi de me situer. Et même, on fait... souvent dans nos formations avec mes collègues, on fait un long temps d'introduction pour poser le cadre et pour nommer tous nos éléments de posture autant que possible, créer de la confiance et de la sécurité.
C'est quoi par exemple ?
Le cadre ?
Non, nommer qui tu es.
Et ben, alors par exemple, hyper concret, je vais dire, bah moi, par exemple, je suis une femme cis, c'est-à-dire que je m'identifie au genre qu'on m'attribue à la naissance. Je suis hétérosexuelle, je suis blanche, je suis issue de la classe supérieure et je suis invalide parce que j'ai des troubles psy. Ça, okay. Ça va contribuer à me situer. Et je trouve ça important parce que l'idée, c'est de dire, en fait, mon point de vue et tout ce que je vais vous raconter, ça, c'est pas neutre, c'est pas l'universel, c'est pas objectif, c'est subjectif. Ça veut dire que c'est un point de vue partiel et partial. Partiel parce que c'est une toute petite partie de la palette des points de vue possibles. Et partial parce que là d'où je viens, où j'ai grandi, dans quel corps je suis, où est-ce que j'ai fait mes études, qui est ma famille, de qui je suis entourée, tout ça, en fait, ça influence comment je vois le monde, comment j'y agis, les possibilités que j'ai, même ce que j'arrive à imaginer. Et du coup, le nommer, ça permet de mettre fin, de mettre à mort à cette idée de l'universalité et de l'objectivité que vraiment je déteste de tout mon cœur et que pourtant plein de gens, notamment dans les médias, prétendent qu'elle existe, et de redonner de la liberté aux participants pour qu'ils puissent se dire « Ah, en fait, si elle dit ça, c'est peut-être que ça vient de tel endroit. » Et c'est pas parce qu'elle est universelle, et du coup, ça permet qu'ils se marginalisent pas en m'écoutant.
S'ils sont pas d'accord avec toi, par exemple, ils disent pas « Oh là là, j'ai tort. »
Exactement.
Ils disent, ah, on n'est pas la même personne, et donc... On peut avoir deux regards différents sur une même situation.
Complètement. Et puis notamment pour, si jamais c'est des personnes minorisées dans un aspect ou un autre, qui puissent se dire, bah en fait là, elle parle probablement en tant qu'hétéro, et moi qui ne le suis pas, à cet endroit-là, probablement j'en sais plus qu'elle. Et que ça favorise même le fait qu'ils me disent, bah là tu te trompes en fait.
Ah oui, hyper intéressant. Mm-hmm. Donc, un peu limiter les effets d'expertes sachantes, etc.
Ouais, complètement. Coup.
Et ça fait vachement écho à la question de la neutralité de nos points de vue. Notamment si on doit défendre des points de vue, vraiment se situer au maximum et de dire je vais aussi sortir de ma casquette de facilitation et je vais prendre la casquette de ce sujet parce que pourquoi il est important pour moi, etc. Et
toi, après, tu fais ça ?
Bah, parfois, oui, quand j'ai envie, mais dans ce cas-là, je le dis, je le nomme. Et après, vous, vous en pensez quoi ? Vous avez quel point de vue sur ce sujet ? Et venez, on en parle. En tout cas, De situer son propos, c'est pour moi hyper important parce qu'on a une autorité de statut de ouf. Rien que le fait d'être l'animatrice, on a une autorité de statut. Et même si on est nul et incompétente, on aura quand même cette autorité de statut. Ça veut dire qu'on n'aura pas l'autorité de compétence, donc notre autorité, elle ne sera pas complète, etc. Mais les gens, ils penseront quand même qu'on est... Bah, nous, on a au rôle de formatrice et pas eux. Et donc, on a peut-être un peu plus raison qu'eux. Donc c'est important de limiter ces effets-là d'impressionnants, etc. quoi.
Mmh. Ouais, carrément.
Voilà, on avait envie aussi de se demander un peu et puis de raconter des anecdotes. Qu'est-ce qu'on aime dans le fait d'animer ? Toi, Juliette, qu'est-ce que tu aimes ?
Qu'est-ce que j'aime ? J'aime plein de choses. Moi, j'adore voir... J'ai la chance d'animer des formations qui sont un peu longues, qui durent entre 2 et 3 jours. Et du coup, j'adore voir les participants, les participantes évoluer. J'adore les voir se saisir d'enjeux qu'on propose ou qu'eux, ils amènent le plus souvent. Et les voir comprendre des trucs, les voir avoir des prises de conscience, les voir se connecter aux autres et prendre conscience que, ah, en fait, ils ne sont pas seuls à vivre ça. Ah, en fait, il y a des solutions. Ah, en fait, ils ont déjà plein de cartes en main. Ça c'est vraiment, je trouve ça hyper excitant de pouvoir contribuer modestement, parce que souvent c'est quand même vraiment les participants et participantes qui font tout, mais de pouvoir contribuer et être témoin de ça, vraiment c'est un des trucs que j'adore quoi.
Ah ouais, on assiste en live, on est les témoins privilégiés de prise de conscience et de transformation, et c'est le moment qui reste souvent des points de bascule quoi.
Mmh, carrément, puis comme tu le disais quand on préparait l'émission, c'est des choses qu'on a vécues nous en tant que participante d'atelier.
Oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Moi, je me rappelle encore de ma formation BAFA, j'avais 18 ans, et c'est la première fois que je voyais de l'écriture inclusive et qu'on me demandait de me situer selon mon genre et comment ça jouait ou pas dans mes rapports aux autres et dans ma place dans la société. Ça m'a fait une explosion cérébrale. À une époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui aussi, et donc c'était « Ah, waouh !» Ouais, c'est aussi des espaces où on va défricher des sujets qui ne sont pas encore grand public, quoi. Et donc, prise de conscience accélérée.
Ouais, de ouf. Et un autre moment que j'aime beaucoup, et je sais que toi aussi, Valou, c'est la préparation.
Oui, carrément. Moi, c'est presque un de mes moments préférés.
Ah ouais, raconte.
Parce que c'est le moment où je prépare c'est ma préparation pédagogique, je prépare mon déroulé et je me demande qu'est-ce qui va, enfin, quel est l'objectif ou les objectifs de ce temps et de quoi on va avoir besoin pour mettre les participants dedans, par exemple, avec l'accueil, le brise-glace, enfin voilà. De quoi on a besoin pour mettre les gens à l'aise ? Est-ce qu'il faut commencer tout doux, parce que c'est souvent des participants qui ne se connaissent pas les uns les autres, ou est-ce qu'on peut déjà être un peu plus dans le fun ou dans la proximité, parce que c'est une grosse bande de copains ou des collègues, etc. Enfin, voilà. Tout le... Penser le cheminement. Après, ça... enfin, je ne suis pas dans le cerveau de tout le monde, mais en tout cas, avec de l'expérience, j'essaye de penser des cheminements qui permettent au plus grand nombre de suivre... de s'installer dans l'idée, de peu à peu prendre confiance dans le groupe, parler de soi, parler de son expérience, et puis aussi prendre du recul, et puis à la fin, pouvoir déposer, ne pas rester avec une boule sur le ventre, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, etc. Enfin, il y a tellement de petits détails à penser qui sont hyper intéressants, qui sont de l'ingénierie pédagogique, en fait, mais c'est vraiment, ça fait partie de mes moments préférés.
Ouais, moi aussi, vraiment, j'adore. Ça m'enthousiasme trop de t'entendre parler de ça. J'adore le fait de devoir agencer différents outils, différents types d'ateliers, par exemple alterner des trucs qui se passent dans le corps, des trucs qui se passent dans la tête, à la fois parce que ça favorise l'intégration, à la fois parce que les participants vont avoir différents types d'intelligence et du coup l'idée c'est de favoriser, de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier ce qu'on propose, peu importe le type d'intelligence ou la façon qu'ils aiment apprendre. Le fait de varier du coup les supports d'apprentissage, de faire des arpentages, de faire des cercles de parole, de faire des jeux, de faire des choses créatives, artistiques. Et du coup, j'adore particulièrement ce moment où on a pensé des objectifs, des intentions, on vise quelque chose avec la formation, on a commencé à agencer des trucs, et puis la magie opère, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est fluide. Tout d'un coup, c'est cohérent. Tout d'un coup, on voit que quand on se passe en revue ce que vont vivre les participants, qu'on fait une sorte de répétition générale dans notre tête. Ah, en fait, ça marche hyper bien. Là, on les emmène là, et puis ensuite, on va dans le corps, et puis ensuite, ça permet d'intégrer. Là, on peut le déposer. Et je sais que ça arrive. J'ai mon conjoint qui fait du montage, et ça lui arrive aussi des moments de magie du montage où tout d'un coup, tu as mis des choses ensemble et ça marche. Et je trouve que vraiment, dans la préparation, il y a ça. Et c'est vraiment hyper jouissif, quoi.
Ah oui, c'est clair. Et du coup, après, ça donne nos fameux déroulés d'animation. Mmh. Toi, il ressemble à quoi tes déroulés ?
Avant de vous répondre à cette question, on va faire une petite pause musicale.
Slow down. I've been in really deep holes, spinning out of control. Now I gotta go to war now.
revoilà donc dans l'émission EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Et Valou, tu étais en train de me demander à quoi ressemblent mes déroulés d'animation.
Et oui, exactement.
Et ben moi, je suis dans la team qui prépare énormément et qui fait des déroulés infinis, c'est-à-dire que j'écris quasiment tout ce que je vais dire et tout ce que je vais faire. Je te vois.
Ah, waouh !
Ouais, moi, j'aime bien détailler, j'aime bien écrire les consignes, j'aime bien aussi écrire ce que je pense ou ce que j'imagine que les gens vont pouvoir, comment ils vont pouvoir réagir pour pouvoir l'anticiper et me dire bah, si ça émerge, je peux proposer ça, si autre chose émerge, je peux proposer telle autre chose, si ça émerge pas, je peux proposer telle troisième chose. J'écris le matos dont j'ai besoin, j'écris le timing, mais ça je crois que tu le fais aussi, parce que c'est hyper important. Mais ouais, moi mes déroulés d'animation font plus 10 pages que une.
Incroyable.
Pas toi ?
Non. Non, il faut que ça tienne en une page. En fait, c'est intéressant parce que ce que tu décris, je le fais quand même, je fais le cheminement, mais mentalement. Et pour moi, mon déroulé d'animation, il faut que je puisse être face à 15 personnes, nanana, jeter un œil à ma feuille et capter direct où je suis. Et si je dois lire 3 romans avant de capter où je suis et pourquoi je fais ça, ça marche pas. Enfin, mon cerveau, il a besoin de comprendre tout de suite. C'est quoi la suite ? Ah oui, merde, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça, c'est bon, ok. Enfin, c'est une feuille de route pour moi et du coup, il faut qu'elle soit la plus synthétique possible. Et ouais, donc...
Ouais, ça te permet d'être spontané, quoi, de oui. Rester avec le groupe et pas de te perdre dans ta feuille.
Ouais, exactement. C'est mon angoisse de me perdre dans ma feuille.
C'est marrant parce que moi, je comprends tout à fait et j'ai l'impression que j'utilise le fait de devoir retourner à ma feuille comme un moment de rappel aux participants. En fait, je suis animatrice. En fait, j'ai écrit quelque chose à l'avance. Et là, en plus, je suis humaine. Et du coup, je me souviens plus très bien où je suis. Et je sais que, plus ou moins consciemment, j'en fais un moment de rappel de « Je suis un humain en train de vous proposer quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas où j'en suis dans ma feuille. Ha ha ha. » Et des fois, c'est complètement sincère. Je ne sais pas où j'en suis. Mais je sais que ça me permet d'amener quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité de ma position qui est pas du tout factice, qui est réelle, hein, que finalement c'est, enfin, on a dit que il y avait une posture d'autorité, d'autorité de pouvoir, je sais plus comment tu l'as formulé,
autorité de statut,
voilà, une autorité de statut du fait qu'on est animateur animatrice, mais ça nous met aussi dans une vulnérabilité particulière parce qu'on, nous, on a des enjeux qu'ont pas forcément les participants participantes, et du coup de rappeler cette vulnérabilité de cette manière-là, de façon, enfin, à la fois c'est un peu subtil, c'est un peu drôle et ça permet de la complicité entre moi et les participantes. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire.
Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est justement, j'ai l'impression que ça va me couper de cette complicité-là. Que je suis bien connectée avec les gens, on est ensemble dans ce qu'on est en train de vivre et que si je me renferme sur ma bulle et sur ma feuille, je vais avoir du mal à remonter la pente et à sortir les rames pour me remettre dedans, quoi.
Donc, ouais, ok, ouais. Intéressant. Ouais, super. Alors, on a parlé de ce qu'on aime dans le fait d'animer, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, que tu n'aimes pas, Valou, dans le fait d'animer ? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent ?
Eh bien, moi, je suis très gênée par la gêne. Ça peut paraître con, mais vraiment, c'est une émotion que je ne supporte pas. Et j'ai beaucoup de peur à imaginer la gêne de mes participants, participantes, et que, voilà, qu'ils se sentent gênés par ce que je leur propose et ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est un truc que je suranticipe, et je pense que j'en fais des tonnes autour de ça, mais... Par exemple, je suis souvent gênée de proposer des jeux participatifs dans des cadres où ça se prête pas trop, où c'est des gens, notamment des collègues de boulot, et puis on va leur demander de faire une ronde tous ensemble pour qu'ils se relient les uns aux autres. Bah, c'est des trucs qui, moi, m'angoissent beaucoup. j'ai de l'empathie sur la gêne des autres et du coup ça fait que je limite ce qu'un participant nous a appelé l'autre jour des gadgets ou des bidules. Il était au début très sceptique et puis après il a vu qu'on les utilisait avec parcimonie et avec des vrais objectifs et pas juste pour le plaisir de voir les gens danser autour des post-it. Moi j'ai la peur que de forcer la main des gens ou qu'ils se sentent obligés de faire des trucs qu'ils trouvent un peu ridicules, etc., qu'ils trouvent en tout cas inhabituels, parce qu'on fait quand même souvent dans des ateliers des choses qu'on fait pas d'habitude. C'est ce qu'on cherche à faire d'ailleurs, d'arracher un livre et de le lire tous ensemble. Si tout le monde le faisait tout le temps, ça ferait pas l'objet d'ateliers. On se fait sortir des cadres, on fait faire des pas de côté, mais moi j'ai toujours envie que ça reste agréable et un peu marrant, ou si le fun prend le dessus sur la gêne, ça va, mais quand ça devient vraiment un malaise, moi c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, et en fait J'aime bien le nommer, du coup, comme ça, les gens, ils peuvent se sentir à l'aise de dire « Ah oui, bah, c'est vrai, parce que là, moi, je me suis sentie trop mal à l'aise. » Et tout le monde a une petite histoire, enfin, sur quelqu'un qui les a forcés à faire une réunion post-it de l'enfer, à faire le pont de bon matin à 8h30 du mat à côté de ses collègues, enfin, parce que c'est fun, et parce que c'est un brise-glace, et en fait, c'est pas un brise-glace, là, c'est l'angoisse, quoi.
Ouais, d'accord, ouais, je vois.
Ça fait écho, toi ?
Ouais, carrément, ça me fait écho, et ça me fait écho, en fait, je me vois animer un brise-glace où tu dois faire un œuf, un poulet ou un tyrannosaure.
Bien sûr, c'est le meilleur jeu de la Terre.
Bah ouais, mais je me souviens l'avoir proposé dans un contexte où, justement, je pense que ma posture n'était pas hyper ajustée, où je suis pas sûre que les gens avaient vraiment choisi d'être là, ou peut-être j'avais pas un mandat très clair, c'est-à-dire c'était pas tout le monde avait pas voulu que je sois là ou était pas d'accord pour qu'il y ait une animation à ce moment-là, et avoir proposé ce jeu qui est assez ridicule puisque le but c'est quand même d'imiter des œufs, puis des poulets, puis des tyrannosaures. Donc la gêne est au cœur de ce jeu. Sauf que si t'as pas accepté de la subir, de jouer avec, si tu sais pas pourquoi t'es en train de faire ça, effectivement, il y a moyen de passer un mauvais moment. Et en t'écoutant, je suis en train de me dire « Ah, mais peut-être j'ai fait passer un mauvais moment à certaines personnes et je pense que j'avais pas une posture aussi travaillée que maintenant. » Et du coup, ça a pu arriver que je le sois, que j'ai fait ça, quoi. Je suis désolée s'il y a des gens qui m'écoutent pour ce moment, alors que c'est vraiment un jeu qui est très marrant quand on sait pourquoi on le fait et qu'on est OK pour le vivre, quoi. Moi, je pensais à ce qui me gêne, un truc avec lequel je suis pas à l'aise, c'est les gens qui sont un peu sceptiques, j'ai pas trop de soucis, mais les gens qui sont dans la confrontation, qui n'ont pas envie d'être là et qui vont venir chercher les défauts de l'animation, je trouve que c'est quelque chose qui est... C'est difficile. Souvent, j'y réponds avec de la vulnérabilité, justement, pour ne pas monter le truc en épingle. Mais qui vont venir critiquer ce que je fais, montrer les limites, demander pourquoi on fait ça et pas ça, ou les moments où j'amène du savoir froid, des connaissances un peu descendantes qui vont venir... Bah, non, c'est pas ça. Ça, je trouve ça assez difficile à gérer, parce que non seulement... Alors, le fait que j'ai tort, à la limite, je m'en fous, mais je trouve que ça fragilise le groupe.
Ouais, et la confiance qu'ils donnent dans toi et dans le cadre, quoi.
Ouais, et puis c'est souvent, c'est les gens, en fait, ils ont souvent pas un problème avec ce qui est dit, avec le savoir, mais ils ont un problème avec autre chose qui se passe, et du coup... C'est difficile à gérer. Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce que je vais lui parler en perso? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il réagit comme ça? Est-ce que c'est vraiment... ce qui l'amène le problème, et dans ce cas-là, on parle de connaissances et il n'y a pas de souci pour y faire de la place, ou est-ce que c'est autre chose ? Et ouais, je trouve que ce n'est pas facile à gérer. Mmh. À gêner, bon, voilà.
On a bouclé la boucle.
Et on avait envie de finir avec est-ce qu'on peut dire qu'une animation est une réussite ou un échec ? Est-ce qu'on a des exemples de ça ? Et moi, je veux bien commencer parce qu'en y réfléchissant, j'ai un exemple d'une animation qui a très bien marché. Donc, c'est à la fois une réussite et un échec. Une animation qui a très bien marché dans un contexte et qui a super, super raté dans un autre.
On a envie d'en savoir plus.
C'est dans je l'ai fait dans deux formations, du coup. Une même pas peur et une même pas mal. L'idée, c'est de définir ce que c'est qu'une émotion. Et du coup, on passe en revue un peu les grandes questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi sur une émotion. Donc qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça survient, où ça se passe, pourquoi, à quoi ça sert. Et dans un premier cadre, ça marche bien. Les personnes jouent le jeu, se questionnent, on remplit une feuille qui fait qu'à la fin, on a une sorte de carte d'identité de l'émotion. Donc je pensais que cette animation marchait, et puis je l'ai exportée dans une autre formation, et là j'avais un public masculin avec que des hommes. Et ça a été vraiment l'échec cuisant.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Ce qui s'est passé déjà, c'est que c'était hyper poussif. Ils étaient extrêmement calmes, il n'y avait pas du tout d'énergie. Moi, je devais tout le temps les relancer. Ils étaient très studieux, ils avaient l'air de s'ennuyer de ouf. Je ne savais pas comment faire pour, les intéresser, susciter un chouïa d'enthousiasme.
Ils avaient peur de dire des bêtises ?
Je pense qu'ils avaient peur de dire des bêtises. Je pense que ça reproduisait un climat scolaire. En réussite-échec qui devait être stressant. Je pense qu'ils étaient sceptiques sur ce qu'ils pouvaient apprendre. Je pense que le format où moi, ma façon en fait de faire en mode ça va être marrant, on va faire la carte d'identité, ça marchait pas du tout parce que justement, à mon avis, on n'était pas loin du gadget ou du bidule d'Educ Pop en fait, où ça s'appelle la carte d'identité des émotions, du coup c'est censé être fun, sauf qu'en fait il n'y a rien de fun dedans, quoi. Et donc, ouais, là je me sens que j'ai passé un mauvais moment, je crois que eux aussi. Et depuis, je le fais autrement.
Ok. Leçon apprise.
Oui. Il faut qu'on conclue.
Ok.
Donc si t'as envie de... Enfin, voilà.
Pour moi, les animations ratées, souvent c'est quand je suis pas très dans mes pompes, quand j'ai pas beaucoup préparé, que j'arrive un peu à l'arrache, ou que j'ai préparé il y a trop longtemps et du coup c'est plus très clair dans ma tête. Et voilà, et souvent du coup ça fait que la sauce prend pas. Voilà, et donc et parfois même si je vais bien mais que la sauce prend pas, je suis hyper déçue et voilà. Mais c'est plus ouais l'ambiance, la dynamique de groupe quoi. Mais ça fait pas mal écho à ce que tu dis aussi. Selon si ça génère de l'enthousiasme ou de l'envie ou des rires ou si c'est un peu ouais bon.
C'est vrai que toi quand je te vois animer, souvent t'es drôle.
Oui, oui, moi j'ai un petit côté clown et ça ouais. participe de l'ambiance collective quoi. Et c'est vrai que si je suis pas moi-même bien, déjà il y a toute une source d'énergie pour qui nourrit pas le groupe quoi.
Ok, très intéressant. Bah merci.
Merci à toi.
Alors maintenant on va vous parler de notre calendrier. C'est quoi les prochaines dates de CEP? Alors, en mars, du 21 au 23 mars, à Bouvières, en Drôme, il y a un stage sur les peurs en lien avec l'actualité. Et la spécificité de ce stage, outre la thématique de l'actualité, c'est que ce sera le premier stage sur les peurs en mixité. Donc tout le monde est le bienvenu. Ensuite, dans les ateliers événements, le mercredi 19 mars, il y a un atelier au café associatif Le Cause Toujours à Valence, désintoxication de la langue de bois. Rendez-vous à 14h30 jusqu'à 17h. Ensuite, le dimanche 23 mars à 15h, il y aura une conférence gesticulée à un atelier qui s'appelle « Je t'aime, camarade, manifeste pour des organisations militantes plus joyeuses ». Et ça, ce sera rendez-vous au Valence Atelier Libre. Le 29 mars, à la MPT du Petit Charan, il y aura le festival féministe « Paillettes et points levés ». Et Seb sera présent pour animer un arpentage. Et enfin, en avril, le 11 et le 12 avril, rendez-vous à Villeurbanne près de Lyon pour le festival « Le pas de côté », organisé par Seb aussi. Et plein de bénévoles.
On se retrouve prochainement au mois d'avril pour la prochaine émission sur la place des enfants dans l'éducation populaire et dans les accueils collectifs de mineurs, quel rôle on leur donne et quelle place on leur laisse dans les décisions. On aura certainement des invités trop chouettes qui changent les pratiques d'éducation populaire vis-à-vis des enfants.
Trop bien, trop hâte. C'était Juliette et Valou dans l'émission EducPop. EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.